Jean-Michel Carayon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes senior vice-président chez Moody's. On va parler avec vous d'un sujet qui tient à cœur des PME, le sujet du financement des PME. Alors avec, c'est vrai, on le voit en Europe et en France, ce sujet de désintermédiation. On en est où justement? On sait qu'aux États-Unis, on a un autre mode de financement, mais en Europe, pour vous, on en est où?
Absolument. Donc en Europe, on a vu une tendance à la désintermédiation depuis un certain nombre d'années. Alors, au cours des dernières décennies, elle avait eu lieu, cette désintermédiation, pour les très grandes entreprises qui aujourd'hui sont très largement désintermédiées. C'est-à-dire qu'elles conservent une utilisation de lignes bancaires comme ligne de sécurité pour les programmes de papier commercial ou pour certains financements spécifiques. Mais elles sont largement désintermédiées. On constate depuis un certain nombre d'années que des entreprises de taille intermédiaire mais relativement grande, commencent à venir sur les marchés obligataires et donc participent à cette désintermédiation. En fait, on constate qu'en Europe, dans la zone euro, le financement bancaire qui représentait en 2008 87% du financement des entreprises ne représente plus que 79%. Donc on a eu un mouvement de désintermédiation assez important, mais qui a probablement été finalement accéléré par la crise financière et le fait que les banques ont décidé de réduire leur bilan.
Et donc on a prêter eu un aspect réglementaire.
Alors, il y a aussi un aspect réglementaire qui est Bâle 3 et qui va obliger les banques effectivement à avoir des ratios, un certain nombre de ratios prudentiels un peu plus forts que par le passé. Donc, elles ont aussi en anticipation de cette nouvelle réglementation réduit un certain nombre d'encours de crédit et dans certains cas finalement encouragé les entreprises à aller sur les marchés, ce qui aussi peut générer bien sûr des revenus pour les banques lorsqu'elles sont intermédiaires dans l'arrangement de ces opérations.
Donc aujourd'hui, pour les PME, ETI, on reste quand même sur les marchés obligataires. C'est ceux qu'elles utilisent potentiellement.
Alors, effectivement, avec bien sûr une limite quand on parle de PME, c'est que les marchés obligataires demandent des montants d'émissions de taille relativement significative. Bon, en gros, 200-300 millions d'euros sont considérés comme des montants appropriés pour aller sur le marché obligataire pour des entreprises de taille intermédiaire. En dessous, alors on peut envisager, il y a certaines formes des intermédiations comme le placement privé qui peuvent permettre d'atteindre des tailles inférieures.
Donc il y a eu aussi des initiatives Mikado par exemple de mutualiser en quelque sorte auprès de plusieurs PME ce type d'émission pour des PME qui peut-être justement, quand on a eu des montants que vous avez rappelés, n'auraient pas pu.
Oui, alors effectivement, avec toujours une question lorsqu'on va sur des tickets, si on veut dire, enfin des montants d'émissions par émetteur plus petits, qui est celle de l'appréciation du risque. Et c'est là évidemment que des instruments comme la notation permettent aux investisseurs de s'assurer de la qualité de crédit des instruments dans lesquels ils investissent.
Est-ce que de votre point de vue, ça va continuer? C'est-à-dire que ce mouvement-là, par rapport aux chiffres que vous citiez sur 2008, on continue sur cette tendance?
Alors, nous pensons qu'effectivement, la désintermédiation va continuer. Cependant, peut-être pas au rythme qu'on a observé depuis 6 ans. Parce que d'abord, les banques ont fait cet exercice de renforcement de leur ratio et donc elles ont aujourd'hui à nouveau des capacités de prêter un petit peu plus important. Donc on peut penser que la désintermédiation continuera. On n'ira probablement pas dans le long terme aussi loin que les États-Unis, qui est un marché très largement désintermédié, mais on va probablement voir une poursuite du mouvement, mais un rythme un peu moins soutenu qu'au cours des 6 dernières années.
Alors on peut évoquer aussi le marché du high yield, donc à haut rendement. On ne le sait pas forcément, mais c'est en France qu'on trouve, en Europe, hein, et c'est donc en France qu'on trouve le plus gros marché.
Alors absolument, c'est un marché qui s'est développé très très fortement au cours des dernières années et qui dépasse aujourd'hui 75 milliards d'euros et on atteindra un montant en 2014 un peu plus important que celui que l'on a atteint déjà en 2013 qui était une année record. Et sur ce marché, les entreprises françaises sont effectivement les premiers émetteurs hein, avec des montants supérieurs à 20, enfin de l'ordre de 20-25 milliards d'euros. Alors c'est vrai que par exemple il y a eu des opérations importantes comme celle d'Altice, hein, de rachat de SFR,
qui
ont participé à ce qu'on arrive à des montants assez important pour les entreprises françaises.
Alors on avait vu sur les marchés cet été, notamment aux États-Unis, quelques flux un petit peu sortants, il y a eu un petit peu de turbulence on va dire sur ces marchés-là. Le regard que vous avez en ce moment sur ce marché à yield, est-ce qu'il a repris un peu de calme ou est-ce que on est arrivé un petit peu à la limite?
Alors, il y a eu aussi un facteur qui a largement soutenu au cours des dernières années le marché du high yield, et c'est le refinancement d'un certain nombre d'opérations non notées, qui étaient essentiellement détenues dans des CLO. Et donc, ces opérations sont aujourd'hui assez largement refinancées. Donc, effectivement, c'était un élément de soutien de ce fort taux de croissance qui aujourd'hui est en train de disparaître un petit peu. Donc, effectivement, on peut penser que le marché va continuer de fonctionner avec des volumes relativement élevés, mais probablement pas au même rythme de croissance que l'on a connu, et il se peut qu'il y ait un petit ralentissement. Alors il y a de la liquidité, les investisseurs sont à la recherche de rendement, les taux d'intérêt qui sont très bas, les font s'intéresser toujours à des investissements dans du high yield parce que le rendement effectivement est quand même plus attractif. Bon, la conjoncture reste quand même un petit peu morose en termes de croissance, même si finalement l'environnement de crédit est finalement très stable, et on le voit même rester encore plutôt légèrement positif. On a vu cette année plus de relèvements de notes que d'abaissements pour la première fois depuis 2008, donc on reste dans un environnement qui reste quand même plutôt stable, mais effectivement avec une problématique de croissance, de faible croissance en Europe, qui reste quand même un souci pour l'économie et pour les entreprises en général.
Alors ça nous amène à terminer sur le secteur automobile. On est en plein mondial qui va commencer effectivement ce week-end pour le grand public en tout cas. On a eu l'occasion de rencontrer des constructeurs. Le regard que vous avez sur ce secteur, en tout cas sur le secteur européen, est-ce qu'il va mieux? Comment vous l'analysez?
Alors, globalement sur le secteur automobile, nous avons une perspective stable sur le secteur, donc on voit plutôt des perspectives de crédit être relativement stables, voire pour certains émetteurs bénéficier d'une amélioration de leur qualité de crédit grâce au fait par exemple qu'ils ont réalisé des programmes d'économie et ont redressé une rentabilité qui avait été affectée fortement pendant la crise. On voit une croissance globalement au niveau mondial sur le secteur automobile de l'ordre de 3%, légèrement plus en 2014, autour de 3% en 2015. On a eu un marché européen très bien orienté, comme le marché américain d'ailleurs, jusque-là en 2014, et on voit la croissance de l'ordre de 4 à 5%. On pense par contre que l'année prochaine on aura une croissance toujours positive, mais beaucoup plus dans un niveau de l'ordre de 1,5% sur ces marchés. Mais on voit donc une orientation qui reste quand même plutôt relativement positive. On voit des programmes d'économie, comme je le disais, qui ont permis à un certain nombre de sociétés, comme Peugeot et Renault par exemple, de redresser leur rentabilité. Et on voit toujours la Chine comme le marché porteur pour l'automobile, avec des taux de croissance de l'ordre de 7 à 8%. Et on voit cette croissance continuer. C'est un marché qui, rappelons-le, aujourd'hui représente 27%, l'année prochaine probablement 28% du marché mondial de l'automobile.
Voilà, incontournable. Merci d'avoir fait le point avec nous, Jean-Michel Carillon.
Merci beaucoup.